Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne pendant une heure. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission. Paris admet qu'il aurait pu arrêter le génocide au Rwanda, mais n'en a pas eu la volonté. Une maison russe ouvrira ses portes au Niger et des photos d'individus avec le drapeau ukrainien retrouvées sur le téléphone d'un terroriste du Krokus City Hall. Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre sénégalais par le nouvel homme fort de Dakar, Bassirou Diomaye Faye. Un panafricaniste malien et deux experts béninois analyseront la portée de cette nomination pour la région. Les ministres français et russes de la Défense se sont entretenus par téléphone. Un journaliste français est revenu sur cette reprise de contact à l'initiative de Paris. Un artiste tchadien offre une seconde vie à des matériaux destinés à la destruction. Il évoquera à notre micro l'importance de sa démarche pour préserver l'environnement. Dans un message vidéo qui sera publié dimanche à l'occasion du 30e anniversaire des événements funestes survenus au Rwanda, Emmanuel Macron reconnaîtra que la France avait eu la possibilité d'arrêter le génocide en cours dans ce pays africain, mais qu'elle n'en avait pas eu la volonté selon l'agence France Presse. Le locataire de l'Élysée a été invité par le dirigeant rwandais Paul Kagame aux commémorations mais ne pourra pas s'y rendre. Il sera représenté par Stéphane Séjourné, son ministre des Affaires étrangères. Pour rappel, en 2021, Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide au Rwanda qui a causé la mort d'au moins 800 000 personnes, issues pour la plupart de la minorité Tutsi. Une maison russe verra bientôt le jour au Niger. Le Centre russe de diplomatie populaire a signé un mémorandum sur la future inauguration de cet établissement avec les ministres nigériens de la jeunesse, Amadou Abdrahmane, et de l'enseignement supérieur, Mahamadou Saïdou. Fait important, ce n'est pas le seul document qui a été paraffé à cette occasion. Un autre mémorandum portant sur la coopération dans les domaines de la culture, de l'art et de l'enseignement supérieur a également été signé. D'une durée de 3 ans, il reflétera l'intérêt mutuel pour l'approfondissement de la coopération bilatérale. L'arrivée de cette maison russe à Niamey viendra renforcer l'offre culturelle sur place. Pour rappel, un centre de langue et de culture russe intitulé Espace Russe a ouvert ses portes récemment dans la capitale nigérienne. C'est à l'initiative de l'Université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba que cette structure a été créée. Des étudiants de l'université Abdou Moumouni ont pu assister aux premiers cours dispensés par ce nouvel établissement. Une trouvaille intéressante a été faite par les enquêteurs russes sur le téléphone d'un terroriste du Krokus City Hall. Des photos d'individus avec le drapeau ukrainien sur fond de maisons détruites y ont été découvertes. L'enquête a établi que les assaillants avaient choisi la salle de concert du Krokus City Hall pour commettre l'attentat sur instruction d'un curateur qui dirigeait leurs actions. Le 24 février dernier, le jour de l'anniversaire du lancement de l'opération spéciale russe, l'un des complices a envoyé à son curateur des captures d'écran d'images, des entrées du Krokus City Hall et des routes d'accès. L'instance estime que ces données collectées pourraient faire office de preuve d'un lien entre l'attentat et la tenue de l'opération militaire spéciale russe. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Bassirou Diomaye Faye a été intronisé président du Sénégal. Peu après sa prise de poste, le nouvel homme fort de Dakar a nommé Ousmane Sonko, son ex-mentor au poste de Premier ministre. Un joli clin d'œil quand on se souvient que la candidature de M. Sonko à l'élection présidentielle sénégalaise avait été invalidée par le Conseil constitutionnel et que c'était Bassirou Diomaye Faye qui avait été choisi pour participer au scrutin par Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye est à 44 ans le plus jeune président de l'histoire du pays. Son accession au pouvoir suscite beaucoup d'attentes et d'espoir chez ses voisins ainsi que chez ses partenaires internationaux. Le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est dit prêt à travailler avec le nouveau président sénégalais pour la rénovation de la coopération sous-régionale et internationale. Le ministère russe des Affaires étrangères a félicité le Sénégal à cette occasion et noté que Dakar était un des principaux partenaires de la Russie en Afrique subsaharienne. Au micro de Spoutnik Afrique, le président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, Oumar Mseconé, ainsi que les analystes béninois Souleymane Hamzat et Modeste Dossou ont commenté la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre au Sénégal. Monsieur Kone, écarté de la course présidentielle, Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre du Sénégal. À quoi peut-on s'attendre suite à la nomination d'un homme politique connu pour sa ligne souverainiste et panafricaniste ?
Alors, c'est quelque chose que nous, Maliens, nous saluons vivement parce que Ousmane Sonko a été toujours pris en considération, en tout cas au Mali, par sa lutte pour la souveraineté de son pays. Et comme vous le savez, le Mali, depuis le 14 janvier 2022, a déclaré cette date journée de la souveraineté retrouvée. Donc, sur ce point, nous nous retrouvons. Donc, nous pensons que la façon qu'il a été nommé aussi a été une bonne chose, car comme vous connaissez toute l'histoire de ces élections au Sénégal, par les circonstances, les vicissitudes historiques électorales, les deux qui ont été emprisonnés et in fine, là où Macky Sall et ses amis ne voyaient pas que la lumière pourrait surgir, ça a été Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal. Donc nous saluons vraiment l'investiture de ces deux personnalités africaines qui vont impulser aussi la démarche de beaucoup de pays du Sahel, notamment le Mali, pour sortir définitivement du joug colonial et que ces peuples puissent se donner la main, faire face à leurs propres difficultés et s'organiser. Donc, comptez d'abord sur les Africains au lieu de compter sur d'autres pays, puissants soient-ils.
Et selon vous, Monsieur Dossou, à quel changement faut-il s'attendre suite à l'arrivée d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre ?
Oui, effectivement, avec la nomination d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre du Sénégal, c'est forcément la politique extérieure du pays qui changera. Et aussi en matière des différentes signatures de contrats, des partenariats, des partenaires du pays. Et ce ne sera plus une sorte de l'ami sincère d'un pays ou d'une certaine partie du monde, mais plutôt une certaine coopération plus globale avec le Sénégal. Surtout au-delà de Ousmane Sonko, il y a son ami et camarade de lutte, Diomaye Faye, qui est président de la République. Donc avec ces deux personnalités à la tête du pays et avec la manière dont ils ont été élus, on sent quand même un changement, un besoin de plus de souveraineté de la part du peuple sénégalais. Donc, je pense que forcément c'est du panafricanisme, mais pas radical. Les gens, les présidents, il faut de la diplomatie un peu dans le travail qu'ils feront. Donc je pense qu'ils vont essayer quand même de se faire respecter de manière ou d'une autre, d'élargir aussi le partenariat dans le monde entier et non dans une partie du monde.
Monsieur Hamzat, quels seront selon vous les changements à venir au Sénégal avec l'arrivée d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre ?
Nous constatons que le président Sonko, au même titre que le président Faye, sont des panafricanistes et souverainistes. Il suffit de se référer à leur programme, le programme de ce qu'ils ont baptisé le Sénégal nouveau, dans lequel il y a un certain nombre de revendications qui sont liées, n'est-ce pas, à la coopération internationale, les rapports d'État à État, en tout cas, plus particulièrement de ceux de la France au Sénégal, sur les accords comme celui du franc CFA, les bases militaires, et cette souveraineté-là de gestion dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc, ces quelques points que je viens de vous citer laissent croire qu'il y aura une rupture au Sénégal. Et une rupture qui ne se fera pas dans la violence, mais plutôt dans le respect et, n'est-ce pas, le cadre des relations gagnant-gagnant, comme l'a stipulé le président Diomaye Faye. Nous savons du président Sonko, de par sa lutte, cette lutte-là qu'il a engendrée avec ses collègues depuis 3 ans, pour la reconquête d'un Sénégal nouveau, que les choses changeront à coup sûr.
Monsieur Dossou, Ousmane Sonko prône la souveraineté politique et économique du Sénégal. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, on observe un rejet des intérêts français, quel avenir pour les relations entre Paris et Dakar ?
Oui, effectivement, avec l'élection de Diomaye Faye et la nomination en tant que Premier ministre d'Ousmane Sonko, il faut dire que les cartes vont être rabattues. C'est vrai, ils n'iront pas de façon radicale avec Paris dans les relations. La preuve, Faye l'a dit, que les relations, les contrats actuels entre les accords entre Paris et Dakar sont plutôt raisonnables, mais qu'il faut les revisiter, voir là où il y a les zones d'ombre, qu'est-ce qui fait que le Sénégal pourrait éventuellement dépendre un peu trop de la France, et ainsi de suite. Et les contrats aussi, miniers, gaziers, pétroliers et autres choses, et tout ça doivent être revus, dans quelle mesure, pourquoi tel contrat a été accordé à telle personne, et ainsi de suite. Je pense que ce sera plutôt ça, le plus de souveraineté, parce qu'ils ne seront pas aussi radicaux que le Mali ou le Niger, chasser les forces françaises et tout. Même si après, on ne sait pas ce qui va se passer, et le franc CFA aussi, on ne sait pas exactement dans quelle mesure ces dirigeants vont prendre les choses, mais il y aura beaucoup de changements, surtout par rapport aux relations entre la France et le Sénégal, forcément.
Monsieur Hamzat, comment voyez-vous l'avenir des relations franco-sénégalaises ?
Écoutez, l'avenir entre Dakar et Paris sera l'objet de discussions. Mais ce qu'il faut se mettre en tête, et de manière assez claire, c'est que plus jamais rien ne sera comme avant. Et le président Diomaye Faye et son premier ministre, le président Ousmane Sonko, ont décidé avec des collègues, puisque c'est un programme qui a fait l'objet d'une campagne qui a été acceptée par la jeunesse sénégalaise. Et il est question ici, cette fois-ci, de nous rendre compte si, effectivement, le président et son premier ministre iront vers la concrétisation de ce programme d'action. Mais ce que nous remarquons par les discours des uns et des autres, les discours officiellement prononcés, et en plus particulièrement celui le discours prononcé à la nation à la veille de la date de l'indépendance par le président Diomaye Faye, on se rend compte qu'ils sont restés dans leur ligne directionnelle, souverainiste et panafricaniste. La France a intérêt à changer sa manière, sa méthode d'agir en Afrique. Nous l'avons dit sur d'autres médias. Le mouvement qui est parti du Mali, qui est passé par le Burkina Faso et enfin arrivé au Niger, est une continuité au Sénégal. Que cela ne soit pas fait dans la violence, je veux dire, par l'arrivée en force de certains présidents à la tête de l'État, suite à des manifestations civiles, le cas du Sénégal est typique. On a pu épargner les affres d'un coup d'État, mais cela n'a pas empêché une multitude de Sénégalais, de jeunes Sénégalais tués dans les rues. Je veux dire par là que la France a intérêt à changer sa méthode d'agir en Afrique. Il est hors de question pour nous, comme l'a dit le président Diomaye Faye et le président Sonko, qu'on nous impose à travers des méthodes qui sont bien connues, quelqu'un qui viendra diriger nos pays. Il est temps que la souveraineté africaine s'affirme et que le panafricanisme soit désormais notre idéologie. Telle est la vision du chef de l'État, le président Diomaye Faye, et celui du Premier ministre Ousmane Sonko, qui est d'ailleurs à la tête du gouvernement et qui a dit inlassablement ne jamais laisser seul dans ce combat le président Diomaye Faye. Paris a intérêt à changer sa manière d'agir, sinon je pense que vous verrez dans les semaines, les mois à venir, la fin du CFA s'acter, mais dans des conditions que je vois venir, moi, et d'autre part, vous verrez les bases françaises et certainement d'autres intérêts français remis en cause.
Et pour vous, Monsieur Koné, quel sera l'avenir des relations entre Paris et Dakar ?
Moi, je pense qu'il va défendre d'abord son peuple, son pays. Donc, il va pas s'occuper d'un autre pays pour le moment. Il va voir partout où le Sénégal va avoir des intérêts. Il va défendre cette position. Et c'est la même position au Mali. Vous savez que le président Assimi Goïta, sous son leadership, dans la Constitution, l'article 32, définit clairement trois points principaux. Trois principes, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix et des partenaires opérés par le Mali et finalement le respect de tous les intérêts vitaux des populations maliennes. Donc voilà, donc c'est ça que ces nouveaux pays, ces nouveaux dirigeants en tout cas au Mali, au Sahel, mais maintenant au Sénégal, vont voir l'intérêt de leur peuple avant tout.
Monsieur Koné Ousmane Sonko a par le passé appelé à sortir du franc CFA, un point de vue qui a été partagé par Bassirou Diomaye Faye. Pourront-ils mettre en œuvre cette idée au cours de ce mandat, à votre avis ?
Ben, vous savez que les trois pays de l'AES sont dans cette dynamique. En tout cas, bon, pour alors de deux choses l'une, soit ça serait une monnaie commune, ça peut être une monnaie commune. Alors si le Sénégal se sent prêt, dans tous les sens, au plan politique, idéologique, pourquoi pas rejoindre la dynamique de l'AES. En tout cas, bon, si les deux visions se rejoignent, que ça soit tôt pour l'un ou tard pour l'autre, c'est de sortir sur du franc CFA qui ne permet pas le développement de l'Afrique. Je l'ai déjà écrit dans des articles avec le franc CFA depuis 1945. Nos pays ne peuvent pas se développer parce que c'est une arnaque du siècle. D'ailleurs, c'est un piège nazi qu'on continue à utiliser. Ce qui est un peu dramatique, des pays qui ont été aidés la France pour combattre Hitler se retrouvent avec un système monétaire que les nazis impliqués au peuple français, faisaient subir au peuple français. Donc je pense que l'alliance, les pays de l'alliance des États du Sahel et le Sénégal auront probablement une convergence de vues sur la sortie du franc CFA.
Est-ce que selon vous, M. Dossou, les deux nouveaux leaders sénégalais parviendront-ils à sortir leur pays du franc CFA ?
Je pense que c'est toujours, c'est des idées que Sonko et Faye ont toujours prônées. Et je pense aussi qu'ils ont été suffisamment radicaux sur ce point. Mais il faut dire que pendant la campagne, ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin. Et le Sénégal ne sortira, ne fera pas route seul. Et Sonko l'a dit, et Faye aussi l'a répété, qu'il faut que il y a une proposition d'une monnaie unique à toute la sous-région, à la CEDEAO, comme c'était prévu. Et maintenant, quand le Sénégal verrait que la volonté politique ou tout ce qui pourrait amener à cette monnaie unique ne marcherait pas avec les autres pays, elle penserait maintenant à commencer à évoquer sa propre monnaie. Et je pense que le Sénégal peut sortir du CFA, parce que le Sénégal a tout ce qu'il faut. Le Sénégal a tout ce qu'il faut, ne nous leurrons pas, hein, quand on dit que économiquement ça va abattre les pays et tout, mais non, le Sénégal a le gaz, le pétrole et beaucoup d'autres ressources qui peuvent faire en sorte que le Sénégal sorte du franc CFA. Et courant ce mandat, je ne sais pas si pourront le faire, mais ils vont mettre en œuvre l'idée. Ça, j'en suis sûr, j'en suis certain.
Monsieur Hamzat, pensez-vous que les nouveaux hommes forts du Sénégal réussiront à sortir leur pays du franc CFA ?
Tout est mis en œuvre pour que la fin du franc CFA soit actée. La France ne veut pas changer, n'est-ce pas, cette manière d'agir. C'est connu. D'ailleurs, cela a provoqué dans des pays comme le Burkina, le Niger et le Mali, en synergie d'action, l'acte de revendication d'une monnaie nationale, d'ailleurs qui doit s'appeler le Sahel, d'après ce qui se dit. Et face à ça, vous voyez que dans le discours d'investiture, je précise, le discours d'investiture du président Diomaye Faye, il a été question du franc CFA, dans lequel il disait, nous porterons, n'est-ce pas, l'attention des institutions de la CEDEAO, c'est-à-dire l'UMOA, la BCEAO, l'UMOA pour l'Union monétaire ouest-africaine et la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, une vision prospective dans une autre méthode souverainiste du franc CFA. Si cela n'est pas accepté, mais qu'on souffrait que le Sénégal se rabatte du côté du Sahel. Et je pense que la France, dans sa manière assez têtue de vouloir s'imposer aux États africains, finira par se mettre le nez droit dans le mur. Il va falloir très rapidement, si la France veut rester au Sénégal, changer sa manière d'agir et surtout se mettre dans un élan de partenariat gagnant-gagnant tout en respectant les décisions souveraines du Sénégal.
Monsieur Dossou, quel serait selon vous l'avenir du franc CFA compte tenu du fait que les pays du Sahel cherchent eux aussi à y renoncer?
Et je pense que beaucoup aujourd'hui, hein, beaucoup de peuples africains aujourd'hui aspirent vraiment, surtout les pays africains qui utilisent le CFA, aspirent vraiment à sortir de cette monnaie, aspirent à une monnaie unique. Donc je pense que même si au sein de la CEDEAO, il y a toujours certains dirigeants qui ne sentent pas du tout, qui ne veulent pas du tout que cela se réalise, hein, la sortie du franc CFA. On a vu avec l'ECO où le président Ouattara, seul avec le président français, a décidé que l'ECO sera utilisé par lui et moi. Et depuis ce temps, on a vu l'ECO est toujours en stand-by, hein, ça n'a jamais été utilisé. Donc je pense que ce n'est pas une politique de remplacement. Et avec les pays du Sahel aujourd'hui qui sont dans cette politique de sortie de franc CFA et de plus de souveraineté, et d'autres pays aussi qui ne s'affirment pas, hein, quand on prend le Cap Vert ou d'autres pays aussi, la Guinée qui ne s'affiche pas, le Togo, je pense que le Sénégal ajouté serait un véritable poids, hein, pour mieux discuter de cette sortie du franc CFA, pour mieux peaufiner cette idée, et peut-être, pourquoi pas, ce serait effectif dans les prochaines années, dans les 5 ou 10 années à venir. Je pense que c'est faisable, hein. Le Sénégal serait un véritable poids pour cette idée.
Et vous, Monsieur Hamzat, comment voyez-vous l'avenir du franc CFA?
C'est un point qui est acté par les populations. Les dirigeants le savent. Il y en a quelques-uns qui s'entêtent, à l'instar de celui de la Côte d'Ivoire, qui pensent que le franc CFA, c'est la meilleure des choses qui soit pour l'Afrique. Un franc CFA que lui-même n'est pas capable d'aller convertir au niveau du trésor français. Donc, le président Diomaye Faye, son premier ministre, le président Sonko, les présidents du Mali, du Burkina et du Niger sont dans une dynamique de souveraineté monétaire à laquelle d'ailleurs sont d'accord les populations. Les populations même incitent à cette fin du franc CFA. De toute manière, qu'il soit écrit, si le Sénégal emboîte le pas, n'est-ce pas, au pays du Sahel, la fin du franc CFA, elle sera totale, sachant que la base même, c'est-à-dire le siège même de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, cette banque-là, qui gère du point de vue financier et monétaire les ressources des 15 ou 16 pays de la CEDEAO, cette banque-là se trouve à Dakar. Donc, si le Sénégal opte pour une rupture totale, et c'est ce qui va se faire avec le franc CFA, sachez que c'est la mort de ce franc-là nazi. Ce franc-là qui nous a mis dans le sous-développement, dans toutes les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, et qui d'ailleurs facilite à ceux qui l'ont implanté le retour de leur monnaie, de leur source de financement sur l'Afrique vers leur pays qu'est la France. Cette monnaie-là mérite d'être mise aux arrêts.
Monsieur Koné, lors de son discours d'investiture, Bassirou Diomaye Faye a promis un changement systémique à la tête de son pays et plus de souveraineté. Il a aussi préconisé pour plus de solidarité africaine face à l'insécurité. Comment voyez-vous l'avenir des relations entre Dakar et les États du Sahel?
Le discours de Bassirou Diomaye Faye, alors je l'ai écouté attentivement, c'est un discours d'espoir, de changement, de recherche de changement, comme ce qui a été recherché au Mali, de changement, de rupture avec les anciennes pratiques, de tourner le dos à la France-Afrique, de tourner le dos à toute imposition impérialiste ou colonialiste, de sortir la tête haute et de laisser tomber les mauvaises pratiques de corruption, de passe-droit, etc. Donc, j'ai écouté attentivement ce discours. Ça me rappelle également le discours de beaucoup de d'une ou deux, trois personnes, des personnalités au Mali. Hein, c'est un discours d'État, il protège l'État. Donc nous saluons aussi ce discours qui a aussi une connotation dans le bon sens de la recherche de la souveraineté, hein, de sortir aussi de mauvaises pratiques qui empêchent le développement. Donc, vous savez, la corruption, on sait comment ça vient. Alors, donc, l'avenir, pour terminer, l'avenir du Sénégal avec les pays de l'Alliance, Je pense que cet avenir, à mon avis, est plausible et radieux, sera radieux si, si toutefois Diomaye et Ousmane Sanko suivent leur vision d'être souverain pour le peuple sénégalais, dans la recherche de la souveraineté du peuple sénégalais, donc qui du reste est recherché par les autres pays, et aussi qui cherchent la souveraineté de leur peuple. Donc je pense qu'il y aura une convergence de vues et d'actions ensemble. Et voilà, donc Bassirou Diomaye Faye vient d'être élu. Laissons-lui le temps de mettre le pied à l'étrier avec Ousmane Sanko, qui est désormais son premier ministre, avec un gouvernement réduit qui est un signe significatif de sérieux, hein, de rationalisation, de ne pas dilapider l'argent du contribuable. Donc, pour le moment, ça va dans le bon sens, mais laissons-les encore travailler pour qu'on puisse les juger. Ça serait trop prématuré de dire beaucoup de choses en ce moment. Nous pourrons en tout cas les féliciter et les encourager à suivre la vision qu'ils ont toujours professée, qu'ils ont toujours tenue, hein, pour que l'Afrique puisse être indépendante et relever la tête dans le concert des nations.
Et vous, M. Hamzat, comment voyez-vous l'avenir des relations entre Dakar et les États du Sahel ?
Écoutez, les relations entre le Dakar et puis les États du Sahel sont excellentes. D'ailleurs, vous devez remarquer à l'investiture du président Diomaye Faye l'arrivée du général Doumbouya de la Guinée, celui du Mali qui a été représenté par le président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité de l'État. Et vous avez certainement remarqué l'absence des autorités du Burkina et du Niger. Mais écoutez, c'était pour des raisons stratégiques et techniques. Il fallait vraiment attendre de voir quelle sera la personnalité nommée au rang de Premier ministre. Et Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, qui est arrivé à cette place-là, a permis, n'est-ce pas, aux deux États en question de prendre des communiqués automatiquement et de se savoir aux côtés du président Diomaye Faye pour conduire, n'est-ce pas, la destinée de l'Afrique de l'Ouest, celui du Sahel, qui est en cours d'identification, de préparation, et celui du Sénégal qui viendra certainement s'ajouter à eux, si tel est que toutes les revendications souverainistes et panafricanistes monétaires ne viennent pas dans le cadre requis par les deux présidents, si ces revendications monétaires n'arrivaient pas à terme et que la France, en dernier, ne changeait pas sa manière d'agir en Afrique, je pense que ce serait une rupture totale et une force de l'autre côté pour le Sahel qui verra le Sénégal venir s'ajouter à ses rangs. Mais tenez-vous tranquille, il n'y a pas que le Sénégal. Il y a d'autres pays qui demandent leur entrée dans l'Alliance des États du Sahel. Ça va se savoir et je pense que ce sera bientôt. Le Sénégal montrera la lumière, en tout cas au plan panafricaniste et surtout en matière de souveraineté à d'autres États. Je pense que les choses iront dans le bon sens.
Monsieur Dossou, quelle est votre opinion sur cette question ?
Et aujourd'hui, quand on parle de souveraineté en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, évidemment, on pense aux pays du Sahel qui ont pris leur destin en main. C'est vrai, par coup d'État, mais ne nous leurrons pas. Il y avait une idée qui est défendue derrière ça. Et ce coup d'État n'était pas forcément pour chasser un président, pour en ramener un autre juste pour la forme, mais l'idée quand même derrière cette différents coups d'État dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, surtout les pays du Sahel, c'était quand même de revisiter un peu les accords, de changer la politique du pays, d'avoir plus de mains pour pouvoir mieux diriger le pays. Et je pense que c'est fait. Hein. Et avec le Sénégal aujourd'hui, le président sénégalais qui évoque plus de souveraineté, je pense que c'est simple. Hein. Ces différents pays du Sahel déjà ont été invités à l'investiture, ce n'est pas rien. Été invité à l'investiture du président Faye, ce n'est pas rien. Cela suppose que le Sénégal va plus travailler en étroite collaboration, en pleine solidarité avec ces pays-là, pour mieux peaufiner les différentes idées panafricanistes sans être trop radical. Et avec la sécurité aussi, le président prenait la solidarité en matière de sécurité, ça veut dire que le Sénégal pourrait aider à faire en sorte que la CEDEAO en aide ces pays militairement à lutter contre le terrorisme. C'est très important.
C'était Oumar Mseykone, président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, Souleymane Hamzat et Modeste Dossou, analystes béninois pour Spoutnik Afrique. Ils ont commenté la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre au Sénégal, intervenu peu après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Ainsi s'achève la première partie de Zone de Contact. Dans la deuxième partie de notre émission, nous nous retrouverons avec Laurent Braillard, journaliste français dans le Donbass, qui reviendra sur l'entretien téléphonique entre le ministre russe de la Défense et son homologue français. A tout de suite.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
De retour pour la deuxième partie de Radio Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent juste d'allumer leur poste de radio. Paris et Moscou ont renoué le dialogue sur le plan militaire. C'est à l'initiative du ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, qu'un appel téléphonique avec son homologue russe Sergueï Choïgou a eu lieu. Une première depuis octobre 2022. Si les deux parties ont exprimé leur volonté de dialoguer sur l'Ukraine, les divergences de points de vue ont rythmé cet échange téléphonique. Tout d'abord sur la question de l'attentat du Krokus City Hall. Paris a tenté de dissuader Moscou de sa piste ukrainienne, assurant que c'était l'organisation terroriste État islamique, interdite en Russie, qui avait commandité cette attaque. Monsieur Shoigu a assuré de son côté que Moscou avait des preuves d'une implication ukrainienne dans l'attentat. Ensuite, sur la question de l'envoi de troupes françaises en Ukraine, le ministre russe de la Défense a rappelé à son homologue français que la mise en œuvre de ce projet causera des problèmes à la France. Au micro de Spoutnik Afrique, Laurent Braillard, journaliste français, a commenté cette entrevue téléphonique entre les deux ministres de la Défense. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français, le ministre russe de la Défense a une fois de plus mis en garde Paris contre les problèmes que créera pour elle un possible envoi de troupes françaises en Ukraine. À votre avis, quelles seraient les conséquences à venir pour la France sur le plan national et international si des soldats hexagonaux venaient sur le sol ukrainien ?
De mon avis personnel, les conséquences seraient graves, puisque envoyer des troupes évidemment sur le sol ukrainien, ça équivaut à un casus belli, donc une déclaration quasiment de guerre. Donc dans ce temps-là, dans cette expectative, la Russie pourrait répondre à ce casus belli de la manière qu'elle l'entendra, mais ça provoquerait à mon avis quand même... On ne peut pas parler de guerre, je pense. Mais en tout cas, il y aurait des réponses fortes de la Russie, j'en suis assez persuadé, et qui pourraient, de cette manière, parfaitement frapper la France de manière justifiée, selon des objectifs qui seraient à définir, mais je pense que ça serait parfaitement justifié d'une réponse forte et militaire de la Russie.
C'est la première fois que des contacts entre la défense française et russe ont été établis depuis octobre 2022, à l'initiative de la France. Selon vous, pourquoi M. Lecornu a-t-il décidé de s'entretenir avec Sergueï Choïgou maintenant, alors que les troupes russes enregistrent de nouvelles avancées sur le front ?
Eh bien, vous venez partiellement, je pense, de répondre à la question, c'est-à-dire qu'évidemment, cette opération spéciale devra prendre fin. L'Occident également devra négocier. Là, je ne parle même pas de l'Ukraine, parce que sans l'Occident, l'Ukraine ne peut pas continuer cette guerre. Donc, tous les curseurs, enfin, disons les possibilités de mettre fin à cette opération et à cette guerre, si on peut la définir comme ça, sont entre les mains de l'Occident. Donc, plus les succès russes sont importants, plus évidemment, les négociations seront difficiles pour les Occidentaux. Ils le sont déjà, je pense, puisque les objectifs occidentaux qui avaient été définis dès l'automne 2022 étaient l'attaque et la conquête de la Crimée, la destruction des républiques du Donbass, la reprise de tous les territoires et des républiques évidemment de Zaporijjia et Kherson. Donc évidemment là, la contre-offensive ukrainienne annoncée avec beaucoup de propagande et d'articles de médias, de support, tout le monde sait comment elle a terminé. Donc et là, il est clair qu'ils sont dans une impasse et que de manière économique, je pense, les limites de l'Occident, de l'OTAN sont déjà atteintes. Et pour eux, un soutien supplémentaire à l'Ukraine en passera par des investissements très lourds, notamment par exemple pour la France, la relance de lignes de production du complexe militaro-industriel qui avait été fermé La relance de projets vraiment très lourds. Le recrutement, c'est déjà le cas en France. Hein. Une augmentation, il y a une loi qui est passée en 2023 qui s'appelle la loi de programmation militaire. Donc tout ça va coûter énormément d'argent. On coûtera encore plus s'il faut supporter l'Ukraine. Donc, à mon avis, ils chercheront, en tout cas, certaines personnalités, certains pays, à un moment ou à un autre, chercheront à trouver une voie de négociation avec la Russie. Et de toute façon, toute guerre a une fin. Et toute guerre finit par des négociations diplomatiques.
Vous avez bien évoqué qu'il ne peut pas s'agir d'une guerre, mais quand même, les alliés de la France ne semblent pas enthousiastes quant à la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Mais pourquoi, selon vous, Paris maintient cette position belligérante malgré tout ?
Je pense que c'est une position qui est personnelle à Emmanuel Macron, le président français, qui n'est pas du tout dans les intérêts de la France. Évidemment, quand Emmanuel Macron a dit qu'il y avait une possibilité d'envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien, d'autres pays, dont l'Allemagne, les États-Unis, ont réaffirmé que eux, ils n'étaient pas du tout prêts à envoyer des troupes et que cela ne serait pas. La France, je pense, on l'a vu dans les différentes rencontres avec, la France, Emmanuel Macron. Personnellement, je pense à quand même un lien avec le président ukrainien Zelensky. Ça paraît assez clair. Je pense aussi que Macron joue un jeu dangereux pour essayer de prendre une position de leadership en Europe qu'il a perdu depuis longtemps. Ça fait très longtemps, bien sûr, que on parle du couple franco-allemand pour l'Union européenne, mais c'est quand même l'Allemagne qui dirige tout ça depuis très longtemps. Je pense que c'est plutôt des paroles qui sont, dans un esprit de se placer de manière forte, avec des positions très fortes, qu'il peut pas assumer, que le président Macron ne peut pas assumer. Je veux dire, militairement parlant, avec des effectifs nombreux, aller à la guerre, faire entrer le pays dans la guerre. Et on sait et on voit, les Français sont très opposés, pas tous, mais une grande majorité. Les gens n'ont pas du tout envie d'aller se faire tuer pour l'Ukraine ou pour qui que ce soit. Ils comprennent qu'ici, il se passe quelque chose qui n'est pas du tout dans les intérêts de la France. Donc je pense que c'est surtout une rotomontade, une fanfaronnade de Macron, politique, très forte, mais qui, à mon avis, n'était pas très bien réfléchie, déjà parce que les alliés, entre guillemets, des Français ne sont pas du tout prêts à le suivre. Derrière, je ne connais pas les raisons profondes, parce que le président Macron ne peut pas avoir dit quelque chose sans que ça ait été pensé, des conseillers politiques évidemment étaient derrière, le discours a été écrit, donc forcément il y a une pensée derrière. Alors, quelle est-elle ? En tout cas, le président Macron a pris des positions toujours assez fortes, en parlant très souvent de guerre, notamment par rapport au Covid, et en disant « je vais vous protéger ». Je pense qu'il y a une dimension électoraliste, faire peur un peu aux Français et dire ensuite « vous voyez, je vous ai protégé, la guerre n'a pas eu lieu, je suis le président de la paix ». Et ça, il le répète très très souvent. La France, force de paix, le président de la paix, je vais vous protéger. Donc je pense qu'il y a aussi, et c'est à mon avis très maladroit, des messages lancés aux Français, je pense.
Monsieur Braillard, passons maintenant à l'enquête en cours sur l'attentat du Krokus City Hall. Vladimir Poutine s'est exprimé à ce sujet lors du récent congrès de la Fédération des syndicats indépendants. Écoutons tout de suite le président russe.
Nous avons été placés dans des conditions où le pays est contraint de défendre ses intérêts, son peuple, son avenir et sa souveraineté par la force armée. Il n'y a pas ici un seul mot superflu. Et la condition la plus importante de notre réussite commune, le chef des syndicats vient de le dire avec beaucoup de force et d'émotion, c'est l'unité de la société multinationale russe. C'est la condition principale, fondamentale de notre réussite. À cet égard, et en jugé par les résultats de l'enquête, nous avons toutes les raisons de croire que l'objectif principal des instigateurs de l'attentat terroriste sanglant et horrible à Moscou était de porter atteinte à notre unité. Il n'y a pas d'autres objectifs en vue, et il n'y en a pas. Car la Russie ne peut pas être la cible d'attentats terroristes perpétrés par des fondamentalistes islamiques. Notre pays est un exemple unique d'harmonie et d'unité interconfessionnelle, interreligieuse et interethnique. Et sur la scène extérieure, il se comporte de telle manière qu'il peut difficilement faire l'objet d'une attaque de la part des fondamentalistes islamiques. Mais l'objectif de saper l'unité de la société russe, en particulier dans les conditions modernes, est certainement visible.
Monsieur Braillard, Sébastien Lecornu a tenté de convaincre Monsieur Shoigu que Kiev n'avait rien à voir avec l'attentat du Krokus City Hall. Le ministre russe de la Défense assura à son homologue français que Moscou disposait d'éléments sur une participation ukrainienne à cette attaque terroriste. Pourquoi la France tenait tant à faire changer de cap Moscou sur son enquête ?
Eh bien, le jour même de l'attentat, les médias français se sont rués vers cette version d'une attaque de Daesh, des islamistes. Et il y a un narratif ici, bien sûr, qui est au niveau de la propagande. C'est-à-dire que la propagande ukrainienne s'est implantée dans la France depuis longtemps. Donc les Ukrainiens sont les gentils, pour faire un truc très simple. Les Russes sont les méchants. Donc évidemment, dans un attentat aussi meurtrier qui touche des familles, qui touche des femmes, qui touche des petits-enfants, évidemment, la cause ukrainienne ici, elle apparaît évidemment, on va dire, peu recommandable. Donc c'est surtout de ce côté-là que la France a tenté, et c'est très maladroit aussi, parce qu'évidemment, je pense que les Russes et leurs services secrets ont des informations que moi j'ai pas, mais en tout cas, s'ils affirment quelque chose, c'est pas en l'air. Et je pense que c'est surtout dans cette idée-là que, voilà, pour l'opinion publique, ce ne peut être les Ukrainiens, ce doit être des terroristes islamistes. Et je rappelle que la France a été souvent touchée par ces terroristes à travers les différentes décennies, dans les années 80, 90, 2000, 2015, le Bataclan, etc. Donc pour les Français, il y a une peur de ce terrorisme, ils ont souffert dans leur chair de ce terrorisme, donc ça c'est logique. Mais que les Ukrainiens qui sont présentés comme les gentils dans l'histoire soient coupables de quelque chose d'aussi ignoble, évidemment là ça colle pas du tout avec le narratif et il faut garder le peuple français dans cette idée que voilà, on supporte une bonne cause, le président Macron a raison, le gouvernement français a raison, et donc il faut surtout pas casser ce narratif.
Monsieur Braillard, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Sergueï Lavrov qui a parlé du règlement du conflit en Ukraine lors d'une réunion avec des ambassadeurs étrangers.
Il y a 10 ans, le pouvoir en Ukraine a été pris, comme on le voit maintenant, par des nazis purs et durs qui ont mené un coup d'État constitutionnel à Kiev. Ils ont immédiatement annulé le statut de la langue russe en tant que langue régionale, montrant ainsi leurs véritables intentions en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et des droits des minorités nationales. Ils ont envoyé des combattants armés en Crimée parce que ses habitants, comme ceux du Donbass, refusaient de reconnaître le régime illégal qui était arrivé au pouvoir par des moyens sanglants. Cela a conduit à un référendum en Crimée, dont vous connaissez l'issue. La Crimée a réintégré la Fédération de Russie. Elle est retournée dans sa patrie. Le 14 avril, cela fait 10 ans que les nazis qui sont arrivés au pouvoir en Ukraine ont déclaré une soi-disant opération antiterroriste contre les habitants du Donbass. Ils les ont qualifiés de terroristes qui devaient être détruits. Tous les défenseurs de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk ont été déclarés terroristes et une action militaire a été lancée contre eux simplement parce qu'ils refusaient de reconnaître le coup d'État. On a bombardé des quartiers résidentiels de Donetsk et de Lugansk et d'autres localités à l'aide de l'artillerie et de l'aviation. Outre les forces armées ukrainiennes, des bataillons de volontaires réguliers composés d'adeptes déclarés du nazisme ont également pris part à cette soi-disant opération antiterroriste. Il s'agit du secteur droit, d'Azov, d'Aïdar et de bien d'autres. Bien avant le début de l'opération militaire spéciale, alors que l'Ukraine menait une guerre contre son propre peuple dans le Donbass en violation des accords de Minsk, le bataillon Azov a été inclus par le Congrès américain dans la liste des organisations auxquelles il est interdit de fournir des armes. De nombreux pays occidentaux ont respecté cette position, mais plus tard, ils ont fermé les yeux et armé des nazis purs et durs, ainsi que l'ensemble du régime ukrainien, est devenu la norme pour les pays occidentaux. Comme vous pouvez le constater, ils veulent maintenant transformer l'aide militaire volontaire à l'Ukraine en une aide militaire obligatoire sous l'égide de l'OTAN. Ils veulent forcer tous les membres de l'OTAN à souscrire à la fourniture obligatoire de fonds et d'armes au régime de Kiev par une discipline de bâton stricte, juste pour qu'ils continuent à faire la guerre à la Fédération de Russie. Aujourd'hui, Pratiquement toutes les langues de l'Union européenne occupent, pour ainsi dire, une position favorable dans la société ukrainienne, contrairement à la langue russe. Lorsque nous nous adressons à nos collègues européens, nous leur disons « Il est probablement injuste que vous ne défendiez que vos propres intérêts, que vous ne vous souciez pas de la langue russe en général. » En violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention sur les droits des minorités nationales, de la Convention sur les langues régionales et de bien d'autres textes qui interdisent la discrimination. Non, cela arrange l'Union européenne. Et la langue russe est inacceptable pour elle, tout comme en fait la Russie et la possibilité d'une coexistence égale dans le monde. Ils le disent. Si la Russie gagne, elle sapera les positions dominantes des États-Unis et de l'OTAN dans le monde. Et ils veulent que quelqu'un ait une position dominante. Ils ne tolèrent pas les relations qui sont d'égal à égal. Je ne vais pas entrer dans les détails. La transplantation noire est également très répandue en Ukraine. La corruption, dont les gouvernements occidentaux parlent déjà ouvertement, la répression massive des défenseurs des droits de l'homme. Tout cela est détaillé dans les rapports de notre ministère. Je vous invite à en prendre connaissance. Ce n'est pas que je vous oblige à les lire, mais je sais quel narratif nos collègues occidentaux vous racontent. Ils vous poussent notamment, par tous les moyens, à participer aux différents forums du format dit de Copenhague. Maintenant, les Suisses ont lancé une sorte de conférence de paix avec un seul objectif, assurer le nombre de délégués à l'événement, qui repose uniquement sur la formule de paix de l'ultimatum de Zelensky. Cette formule n'implique aucun compromis ni aucune alternative. Cela ignore complètement les propositions d'initiative faites par l'Afrique du Sud, de la Chine, du Brésil et de la Ligue des États arabes, qui proviennent des meilleures intentions. Tout cela est écouté, mais n'est pas pris en compte et ne le sera pas.
Monsieur Braillard, Sergueï Lavrov a à son tour souligné que l'Occident ne tenait pas compte des propositions de l'Afrique, de la Chine et du Brésil concernant un règlement pacifique de la situation en Ukraine. Comment expliquer cette approche de l'Occident ?
Eh bien, parce que pour l'instant, alors comme vous le savez, il y a eu déjà eu il y a très longtemps, en mars 2022, une tentative de médiation. Alors là, c'était la Biélorussie, donc d'un règlement direct Ukraine-Russie. Ce règlement a été empêché par les Occidentaux. Et aujourd'hui, que le Brésil ou des pays africains ou que la Chine prennent une position ici très forte, c'est-à-dire pour pouvoir régler ce conflit en se présentant comme un intermédiaire, eh bien, pour les Occidentaux, je pense que c'est assez inacceptable. Ça les met en position d'infériorité. Pour l'instant, l'hégémonie, enfin celle qu'ils ressentent, pour eux, dans leur tête, elle est européenne. La vieille Europe, les anglo-saxons surtout, évidemment. Donc britanniques, allemands et surtout les Américains. Donc ici, évidemment, c'est inacceptable pour eux qu'on vienne frapper à leur porte pour leur dire « bon, on se présente comme un intermédiaire pour vous placer tous à la table des négociations ». Et ça place évidemment l'Occident en plus comme belligérant. On sait très bien qu'ils le sont, mais dans le narratif officiel, il y a ce petit paradoxe et mensonge, ou du moins, comment dire, c'est pas personne, c'est un peu la tactique de l'autruche, donc on regarde pas la réalité, mais tout le monde sait très bien que c'est le cas. Donc ici, évidemment, en persuadant les Occidentaux de rentrer sur cette table des négociations, eh bien, c'est un peu l'aveu pour eux qu'ils sont partie prenante et qu'ils ont toutes les clés pour en finir avec ce conflit. Et hélas, pour l'instant, il n'y a pas de politique assez fort en Europe, quels que soient les pays, qui aient pris une position médiane pour admettre qu'il faudra en finir et il faudra un jour ou l'autre encore, je le répète, s'asseoir à une table des négociations entre diplomates pour régler ce conflit.
C'était Laurent Braillard, journaliste français pour Spoutnik Afrique. Il a commenté l'entretien téléphonique entre les ministres français et russes de la Défense, une première depuis octobre 2022. Suivez Spoutnik Afrique sur son site internet, sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, Zone de contact et Marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Sputnik Afrique et de l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Rien ne se perd, tout se réutilise. Sur le continent africain, des artistes travaillent à partir de matériaux destinés à la destruction. Au Tchad, c'est le credo de Guy Dembaye Apollinaire, connu sous le nom de Doff, qui réutilise toutes ses trouvailles à des fins artistiques. Son travail dans le milieu est reconnu. Ses œuvres ont été exposées à l'étranger dans des galeries. Derrière son travail, on peut percevoir une sensibilisation à une problématique contemporaine, celle de la préservation de l'environnement et de notre écosystème. Pour Sputnik Afrique, il nous a présenté son travail et adressé un message particulier à la jeunesse. Écoutons-le tout de suite. Pourquoi jugez-vous important d'utiliser des matériaux non conventionnels pour créer des objets d'art ?
Je juge important d'utiliser des matériaux non conventionnels pour continuer dans la même lancée de ma démarche artistique qui est la sauvegarde de notre planète et aussi des messages de paix, de cohésion pacifique, d'amour, de joie.
Où exactement vous procurez-vous les matières premières pour vos créations ? Quelles en sont les plus improbables et qu'est-ce que vous avez créé avec ?
Je vais souvent dans les déchetteries quand j'ai des thématiques bien précises à développer pour chercher des matériaux qui vont dans le sens de cette thématique. Et aussi les matériaux improbables que je crée avec, c'est les douilles de balle. Donc, ce sont des matériaux qui choquent un peu à première vue. Et moi, j'essaie de le façonner à ma manière pour créer de la joie, pour créer du bonheur autour de ce matériau qui est un matériau qui n'est pas destiné à faire de la joie, à faire de la paix. C'est un matériau qui est destiné à la destruction. Donc, ces dernières années, je me suis beaucoup attardé sur ce matériau. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur une série qui s'appelle Défaire le fer. Et le matériau premier que j'utilise, c'est les douilles. Et je mets en évidence les douilles dans cette série-là.
Quelle création vous tient le plus à cœur ? Pouvez-vous nous la montrer ?
Il y a plusieurs qui me tiennent à cœur. Il y a plusieurs qui me tiennent à cœur et que je n'arrive pas souvent à me débarrasser d'elles. En fait, celle qui a eu plus d'impact, c'est celle que j'appelle l'arbre de la vie. Je l'ai créé en 2021 et c'était une œuvre qui parlait de la paix, du vivre en société, la cohésion pacifique sans tous ces fléaux qui minent notre société.
Comment l'art peut-il contribuer à remédier au problème des déchets en Afrique et dans votre pays en particulier ?
Le problème des déchets, il est universel et je crois que l'art peut être un vecteur de sensibilisation autour de cette question-là. Parce que quand on voit mon travail qui quitte à partir de zéro et à la fin être sublimé par mes petites mains et voilà, donner une œuvre d'art qui donne de l'émotion, qui partage la joie. Je pense que c'est un très bon vecteur de sensibilisation et de voir que c'est à partir des zéros qu'on arrive à créer une œuvre d'art et avec des matériaux improbables. Donc du coup, je pense que je continuerai dans cette lancée, je continuerai de militer en faveur de l'écologie et sensibiliser les plus jeunes aussi à travers mon travail pour qu'on essaye d'arriver à aboutir à une planète propre.
Vous avez exposé votre œuvre dans de prestigieuses galeries en Afrique et en Europe. Dans quelle mesure cela peut-il aider le Tchad ?
Déjà, étant un artiste autodidacte et d'où nous n'avions pas des structures d'accompagnement dans les beaux-arts comme des établissements, je me dis que déjà nous sommes dans un enclavement culturel, surtout dans le domaine de l'art plastique. et réussir à se démarquer et réussir à exposer dans des galeries à l'international. Je pense que non seulement pour l'artiste, mais pour le Tchad, c'est un plus parce que on compte aussi un artiste qui expose dans des galeries prestigieuses dans le monde. Et que ce soit un Tchadien, moi je pense que c'est une fierté. Et je pense que d'ici peu de temps, il y a beaucoup qui suivront mes pas et on arrivera à parler du Tchad dans le positif. Parce que à chaque fois qu'on essaye de sortir, on demande, oui, vous venez d'où, du Tchad, c'est où, voilà. Il faut qu'on change ce cliché qu'on a de ce beau pays qui est le nôtre et qui est très cher à nous. Voilà, je pense que nous sommes dans une très belle lancée.
Et quel projet professionnel avez-vous ?
Le projet actuel que je suis en train de mener, c'est de travailler avec les jeunes artistes plasticiens du Tchad. On a déjà répertorié quelques-uns qui travaillent avec nous dans notre atelier et qu'on essaye d'apporter notre petite expertise pour les aider aussi à créer. Et je pense que d'ici là, on est en train de vouloir ouvrir un centre propre à nous, d'où on aura plusieurs ateliers et on invitera bien sûr tous ceux qui veulent exceller dans ce domaine-là et faire des ponts avec des pays voisins dont j'ai des amis qui sont artistes de renom là-bas qui peuvent passer nous voir de temps en temps pour des résidences de création avec des jeunes pour avoir aussi un regard extérieur que le mien dans notre atelier.
La journée internationale du zéro déchet, c'était le 30 mars. Quel message à l'occasion de cette date voudriez-vous faire passer pour attirer l'attention sur ce problème ?
Le message que je peux passer à la journée internationale du zéro déchet, c'est de continuer dans cette lancée de sensibilisation, mais surtout avec les plus jeunes, parce que les plus jeunes grandiront avec cette idée de préserver leur espace. Les grands, désolé, c'est déjà formaté, parce qu'on voit en ville des grandes personnes qui boit de l'eau et puis il est dans une voiture, il jette peut-être la bouteille d'eau ou bien une canette. Donc je pense qu'il faut accentuer cette sensibilisation avec la plus jeune génération, c'est-à-dire dès l'école primaire, continuer à sensibiliser autour de ce phénomène ou bien de ce fléau si vous voulez, et aussi démontrer à ces jeunes que à partir des déchets on peut réussir à avoir quelque chose de sublime. C'est peut-être d'associer aussi des artistes qui travaillent dans cette démarche qui est de redonner une nouvelle vie à des matières. Donc je pense que si on associe des artistes à cette sensibilisation, parce qu'il y en a plusieurs dans chaque pays, ça va encore avoir un impact, et de faire des ateliers avec des jeunes, voilà, pour créer avec des matériaux improbables.
Une autre date importante nous attend également, c'est le 15 avril, la journée mondiale de l'art. Quel message voudriez-vous passer à d'autres jeunes qui voudraient se lancer comme vous dans la création ?
En fait, le message que je vais passer à d'autres jeunes qui veulent exceller dans l'art, il est très simple. Il est très simple. Pour moi, c'est de croire d'abord au travail qu'on fait, ça c'est la première des choses, et d'être très patient, parce que c'est un travail qui a besoin de la patience, et réussir à avoir une identité, réussir à avoir une démarche, réussir à avoir une écriture, c'est pas quelque chose de facile, mais dès qu'on l'a déjà, je pense que tout viendra à nous facilement. Donc Le message que je vais passer pour la journée internationale de l'art, c'est de croire à tout ce qu'on fait et de le faire avec passion et amour.
C'était Dof, artiste tchadien pour Spoutnik Afrique. Il nous a présenté son travail artistique basé sur la récupération de matériaux destinés à la destruction. Il a ensuite tenu à rappeler à la jeunesse l'importance de la préservation de l'environnement et de notre écosystème. Mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève aujourd'hui mon émission Zone de Contact. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle et à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.